Bonjour, alors oui, je travaille depuis le début du projet avec l'équipe qui s'est constituée. Et en fait, je suis entré sur le corps, donc je ne suis pas forcément, je suis pas toujours sur la musique, même si la question que je pose en général, elle consiste à mettre en évidence qu'est-ce que peut être une culture punk, et comment elle se diffuse, notamment par rapport à l'engagement corporel. Alors, l'idée, c'était justement autour du genre de voir ce que ça peut apporter. Et mon intervention, elle est plutôt comme un axe, un développement d'un certain nombre d'axes de réflexion qu'on pourrait développer au fur et à mesure des 4 ans qui vont s'ouvrir là, dans le cadre du projet. Puisque, je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, mais donc, ces journées d'études qui ont été menées jusqu'à présent, c'est la 7e, je crois, donnent lieu à un projet de recherche qui est institué pour 4 nouvelles années. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avancer là-dessus. Alors, c'est vraiment, vous voyez, en termes de perspective de travail que je pose les choses. Donc, ce projet Punk is not dead. Et puis, je me suis dit, il y avait parfois des choses qui circulaient. Et je me suis dit, quand on parlait de Pink is not dead, par exemple, je pense à Coralie Trinti, qui pendant un moment avait mis ça comme photo de profil Facebook. Alors, Pink is not dead, est-ce que c'est parce que c'est fille, est-ce qu'il faut que ce soit rose? Enfin, tu vois, la question, elle se pose, bien sûr, hein. C'est en même temps, bien sûr, c'est du décalé, c'est du second degré. Mais la question qui se pose, c'est quand même ce que le punk fait au genre. Et depuis, et pas maintenant, mais depuis 40 ans. Et ce que j'ai aimé avec la présentation juste avant, c'est de pouvoir réfléchir à partir des images qui se sont enchaînées sur 2 ans, 2015-2016, aux images qui ont émergé il y a 40 ans. 76, 77, etc. Et là, il y a des choses qui sont à la fois. On voit à la fois des éléments qui sont des codifications punk, donc qui font qu'on voit tout de suite qu'on a affaire à des punks. Mais en même temps, il y a des choses complètement contemporaines, par exemple les tatouages. Les tatouages qui sont là sont des tatouages complètement contemporains, mais qui sont venus se greffer sur ces corps punk ou cette culture punk du tatouage. Alors que le tatouage punk des années 70-80, au tout début, bah, c'était des petits tatouages, c'était plutôt des tatouages venus plutôt du rock. Et donc là, on voit aussi une évolution, comment finalement les corps s'approprient la culture et puis vont se transformer et partager un certain nombre de codes. Du coup, sur le genre. La question du genre, est-ce que là aussi, c'est des choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse, mais on ne peut pas couper le punk d'autres expériences. Alors, quand on voit Bowie, bien sûr, là en plus on a Bowie et Iggy Pop, cette question de la transformation, cette question du jeu sur le genre, homme-femme, homme et femme, mi-homme, mi-femme, bien sûr les New York Dolls. Alors, on a affaire à des hommes qui se travestissent, mais il y a quelque chose qui, là aussi, quand on se situe dans ces années 70, fin des années 70, qui est quand même relativement transgressif. C'est transgressif d'arriver maquillé, d'arriver avec une perruque, d'arriver avec des talons, d'arriver avec des pantalons moulants fluo. Rappelez-vous, par exemple, pour les plus anciens, les tenues fluo vont être accessibles aux hommes dans les années 80 seulement. Donc quand on arrive mi-70 et qu'on a des pantalons bariolés sur talons et avec des perruques et du rouge à lèvres, c'est extrêmement transgressif. Ça interroge les codes de genre, ça interroge la sexualité, ça interroge finalement tout ce qu'on peut rapprocher autour du mainstream. Et du coup, le corps punk, ben, pour moi, c'est un analyseur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe avec, alors, des choses que déjà, là, c'est déjà des hypothèses que je pose. Est-ce qu'on peut dire que, d'un certain côté, ce qui a pu être transgressif à certains moments, surtout au début, j'imagine, enfin, je pense, c'est qu'il y a des masculinités qui ont été féminisées, par exemple, par l'utilisation du maquillage. Par exemple, par l'utilisation d'un certain nombre d'éléments de la panoplie féminine, les perruques, etc. Mais aussi, est-ce qu'on n'a pas affaire à des féminités qui se masculinisent? Et tout à l'heure, Sue le disait, elle disait qu'il y a des filles qui peuvent être très sexy, très féminines, qui peuvent jouer au garçon manqué. Donc il y a cette panoplie qui se construit avec une possibilité aussi de marquer du masculin dans des corps de femmes. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas anodin. C'est des PD, mais ils jouent comme personne. Alors, ça, je l'ai mis parce que c'est une phrase qui a été prononcé, enfin qui a été, c'est le disquaire auprès duquel Daniel Darc a acheté le premier disque des Sex Pistols, Anarchy in the UK, et le disquaire lui file ça dans les mains, il dit c'est des PD mais ils jouent comme personne. C'est des PD parce que c'est pas des rockers quoi, tout d'un coup ils incarnent quelque chose qui dérange le disquaire de rock. C'est des PD. Et c'est pas anodin quand je dis ça, parce que ça traduit vraiment aussi une vision qui peut être portée à un moment sur ce phénomène émergent avec de jeunes garçons, de jeunes filles un petit peu on verra, mais de jeunes garçons qui là aussi se foutent complètement de l'affirmation virile traditionnelle qu'on voit dans le rock'n'roll. Néanmoins, Je pense qu'il faut qu'on pose aussi des choses au plan théorique pour savoir ce qu'on fait. Si on parle de genre, on n'est pas obligé de parler de femmes. On n'est pas obligé de parler des femmes dans le punk. Je vais dire deux, trois mots là-dessus, mais en revanche, on peut faire une histoire du punk ou une histoire des femmes dans le punk. C'est un axe de recherche, c'est un axe d'observation. On peut aussi s'interroger, faire une histoire du féminisme punk. C'est ce que tu as fait en partie, en tout cas en allant chercher, en allant chercher quand même un groupe qui était, enfin, une mouvance qui était considérée comme féministe, etc., progressiste. Bon. Et puis l'idée, ça m'est venu ce matin, je l'ai rajouté cette dernière ligne, je l'ai rajouté tout à l'heure, ne pas occulter l'historicité de ces différents processus. C'est-à-dire que quand on voit des stéréotypes aujourd'hui sur ce qui se passait il y a 40 ans, c'est les stéréotypes qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a 40 ans, ce n'était pas forcément des stéréotypes. On va voir que, par exemple, tout à l'heure, quand je parlerai des punkettes, bah, les punkettes qui tournent autour des pistoles dans les années, fin des années 70, elles sont hyper transgressives. Même si elles restent dans la salle à regarder les mecs qui jouent sur scène, elles sont hyper transgressives par leur look, par le fait qu'elles sortent toutes seules, qu'elles boivent de la bière dans la rue, en 1977 à Londres. Ben voilà, c'est ça qu'il faut aussi se projeter. Alors aujourd'hui, on dit oui, ben, elles sont stéréotypées, elles reproduisent les codes, les rapports sociaux de sexe, etc. Oui, mais on dit ça 40 ans après, avec toute l'histoire, y compris du féminisme, l'apparition du genre, l'apparition de la notion de genre comme outil théorique qui est arrivée entre-temps. Et tout ça, je pense qu'il ne faut pas faire d'anachronisme et de projeter sur ce qui s'est passé en matière de genre dans les années 70-80 avec notre regard qui aujourd'hui est beaucoup plus armé sur ces questions. Alors, bien sûr, là aussi, c'est ce qu'on a dit ce matin, la scène punk, c'est souvent des hommes sur la scène, des femmes devant, autour, derrière, etc. Dans les camions, j'ai entendu à midi, on a parlé des femmes qui étaient dans les camions, qui surveillaient un petit peu ce qui se passait, pendant que les punks se défonçaient, donc elles étaient un petit peu là en vigilance. Bon. Alors, cette histoire, et ça aussi c'est un enjeu, je pense, du projet à venir, c'est pas seulement l'histoire des groupes, même si elle reste à faire, notamment sur cette question de répartition des hommes, des femmes. Mais c'est aussi une histoire du quotidien. Une histoire du quotidien, des backstage, des tournées. Ce qu'on disait tout à l'heure, comment les gens vivent. Est-ce qu'ils sont dans une représentation quand ils vont au concert et puis qu'ils se changent chez eux? Qu'est-ce que ça implique quand on arrive avec une crête ou les cheveux bleus quand on est en 1980 et qu'on est une fille ou un garçon? Quand on va au collège, quand on rentre à la maison, enfin, tout ça, c'est des choses qui me paraissent importantes à poser pour saisir la dynamique punk au-delà de la dimension musicale. Alors, bien sûr, on peut énumérer les chanteuses, les chanteurs. Ce n'est pas ce que je vais développer, mais bon, j'ai pris quelques... On trouve un certain nombre qui sont... Et puis, je pense qu'il faut être aussi attentif à ne pas survaloriser un certain nombre de choses, alors, notamment la question politique. Par exemple, le fait d'associer systématiquement, quand on parle de mouvements ou de groupes femmes, les associer à la dimension politique. Ça, à mon avis, ça survalorise leur impact. Et si on ne fait pas quelque chose de simple, c'est-à-dire s'interroger, par exemple, sur les liens qu'il y a entre des combats politiques punk, ou progressistes, libertaires, alternatifs, anarchistes, etc., et voir comment des femmes peuvent se positionner de façon spécifique. Et là, je crois que c'est des aspects à poser pour ne pas survaloriser tout d'un coup, parce qu'on ne peut pas sortir, par exemple, le mouvement des Riot Girls, ou alors, par exemple, les Pussy Riot, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on ne peut pas les sortir d'un mouvement plus général. En revanche, ce qui est intéressant, et ça, pour les chercheurs, c'est hyper important, c'est que médiatiquement, on leur accorde une très grande importance, très vite, parce que c'est des femmes. Parce que c'est des femmes, comme si, parce qu'elles sont femmes et qu'elles se constituent en groupe militant, leurs paroles seraient plus fortes. Ça, c'est à interroger. Pourquoi, tout d'un coup, un combat qui est déjà là depuis longtemps, il prend de la force parce que c'est les Pussy Riot ou c'est les Riot Girls qui vont venir au devant de la scène, ou pourquoi pas, c'est les FMN qui vont arriver torse nu avec des slogans sur la poitrine. Bon, là encore, ça se comprend un peu plus parce que ça introduit la question du nu. Alors, en matière de culture, de transmission culturelle, j'essaie de réfléchir à différents niveaux. Et là, par exemple, on a déjà identifié dans les moments précédents, dans les premières journées d'études, les figures. La figure du punk et de la punkette. Alors justement, je trouvais que c'était intéressant déjà au niveau du look de parler de punkette. La punkette, ça fait tout de suite, il y a une sorte d'infériorisation par rapport au punk. C'est pas très sérieux, punkette. C'est une petite fille qui s'amuse. Mais dans les deux cas, il y a des choses comme ça qui sont interrogées. Alors, J'ai pas mal d'images, j'ai quelques images bien sûr qui viennent un petit peu de partout, d'Angleterre, etc. Mais l'idée c'est aussi de voir par exemple on parle de figures, comment ça circule. Quand on voit ces images en 77, à Londres, on a déjà tous les éléments de la transgression qui sont posés. Les seins nus, les vêtements transparents, le crâne rasé, les cheveux dressés, le maquillage outrancier. On a tout un tas de codes qui sont des codes qui, même s'il n'y a pas de discours féministe, même s'il n'y a pas de discours politique explicite, ce sont des codes qui transgressent, qui bouleversent et qui mettent très en difficulté, on pourrait dire, l'intelligentsia, qui ne sait pas quoi faire de ça, les hommes politiques, les médias, qui ne peuvent que, du coup, c'est ce que tu disais sur l'enlaidissement, qui ne peuvent que dénigrer ces femmes ou ces hommes qui s'enlaidissent selon eux. Comment tu peux, avec les beaux yeux que tu as, avec tes beaux cheveux blonds, te retrouver à te raser le crâne, te mettre du maquillage partout et te promener comme ça dans la rue en barésille. Donc ça, c'est, là aussi, c'est des choses qui sont... indépendamment d'un discours théorique de politique de transgression, il y a quand même quelque chose qui se joue. Donc ça nous amène à penser la Genèse, et puis, alors la diffusion, là c'est une photo, vous voyez, si je prends les deux photos, ça c'est 77 à Londres, ça c'est une photo qui a été prise par Richard Bellia en Lorraine en 82, donc vous voyez, il y a juste quelques années d'écart, mais déjà ça a basculé la manche, déjà on arrive avec les mêmes types de codes qui se diffusent, le maquillage très, très, très lourd sur les yeux, etc. Mais toutes ces figures, dès le début, elles jouent avec les codes du genre. Là, vous avez René Fee, qui est, bon, alors, c'est un jeune homme qui se promène en barré, enfin, avec des porte-jartelles et bas. Alors là aussi, les piercings, c'est complètement transgressif à l'époque, sur les oreilles, les joues, le nez, les lèvres, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme, vous le savez. Mais ces codes, j'ai juste énuméré, mais on va jouer du maquillage, des bijoux, des bas, des vêtements. Et ça, c'est à chaque fois transgressif et ça produit des détournements par rapport aux codes et aux normes orthodoxe. Alors, est-ce que c'est sans les dire ? Est-ce que c'est de se défigurer ? En tout cas, ça s'inscrit dans ce que j'ai appelé, là aussi précédemment, le « fuck you style », c'est-à-dire c'est une obscénité, une vulgarité revendiquée et qui est une marque de fabrique, une marque d'affirmation de soi et du groupe qui fait que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, déjà, quand on se promène dans la rue, on voit au regard des gens qu'on emmerde tout le monde. Et ça, c'est déjà une action politique, même si elle n'est pas encore une fois formalisée. Là, j'ai pris, voilà, c'était ce que je disais par rapport au tatouage. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont intégrées. Ça, c'est une photo qui date de début des années 2000, donc 30 ans après la première. Et on a cette histoire de relier le piercing au nez au piercing à l'oreille, etc. Donc, il y a des choses aussi qui vont devenir des manières de se présenter. Et puis, là aussi, Lina Hagen, alors, je passe sur le maquillage outrancier, mais là, je l'ai mis juste pour les poils sous les bras. Parce que là aussi, les poils sous les bras, ben, quand on est une chanteuse qu'on passe à la télé, on est épilé. Y a la couverture de Patti Smith. Il y a toute cette volonté, finalement, de choquer avec des petits détails. C'est un petit détail, les poils sous les bras. Ça se voit peut-être pas beaucoup en concert, mais... Tout d'un coup, c'est un détail qui va marquer et qui va marquer justement, qui va générer un malaise. Parce que je pense que ça génère un malaise dans ceux qui reçoivent. Et cet enlaidissement, c'est aussi quelque chose qui échappe au code de la correction que les femmes doivent acquérir dans les présentations. Alors, ça génère, y compris aujourd'hui, ça c'est une photo récente, c'est une jeune femme qui est décédée il y a 2 ans, mais vous voyez, sale punk, là il y a une affirmation aujourd'hui concrète de cette féminité qui à la fois peut jouer sur des caractères très sexy, très érotiques, et en même temps une affirmation très percutante du refus d'être assignée cette féminité seulement, à ce type de féminité. Et puis, là j'ai pris une image d'Elsa, il y a quelque chose qui est aussi, vous voyez, en termes de construction de soi, le fait tout d'un coup d'aller là où on ne nous attend pas et d'aller générer dans cette idée de DIY, do it yourself et construire ton corps toi-même, par exemple, cette façon de progressivement intégrer un certain nombre de choses et avec tatouage, implant, piercing, etc. Qui va nous amener, toujours sur la question du genre, à aussi aller vers d'autres affirmations, notamment, alors, là aussi c'est des pistes, hein, y a des choses qu'on va pouvoir bien sûr discuter. Mais le corps punk, gay, lesbien, si on prend ses 40 ans, si on interroge le genre du point de vue des orientations sexuelles, on passe d'une invisibilité à une affirmation, alors pas une affirmation de tous et de toutes, mais on va passer de quelque chose qui est secret, qui peut peut-être s'identifier dans des paroles de chansons ou dans des fêtes, etc. Mais là, j'ai pris deux exemples, deux punks Alors après, on pourra discuter, est-ce que c'est des vrais punks, mais deux punks, en tout cas deux personnes qui s'inscrivent dans le courant punk et qui se revendiquent punk, qui justement, par leur corps, s'engagent pour affirmer leur orientation sexuelle, mais affirmer avant tout que ce sont des PD et non pas des gays. Et j'ai expliqué pourquoi. Des PD parce que le gay, c'est la représentation du corps homosexuel clean, normé. Qui va accéder au mariage, qui va donc c'est une image, c'est en fait René Hathi et Jean-Luc Vernat, ils vont critiquer par exemple l'iconographie de Tétu hein, ou de Guépier à l'époque, etc. Et là, on va avoir des affirmations qui sont des affirmations très transgressives. Par exemple, vous connaissez peut-être l'anus solaire, le texte de Bataille, qui est devenu une pièce d'une performance de René Hathi. René Hathi qui s'est fait d'ailleurs tatouer donc l'anus solaire. Sur l'anus. Et donc là, oui, c'est pas un truc de PD quand même, ça. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sensibilité à l'aiguille là, à certains endroits du corps. Et puis, on a Jean-Luc Vernat là aussi qui continue à travailler sur cette affirmation qui finalement, comme si c'était pour produire un corps homosexuel qui ne peut pas être récupéré par le mainstream. Et en même temps, c'est compliqué. Enfin, c'est-à-dire qu'en même temps, que ce soit René Hathi, Jean-Luc Vernat ou d'autres, je pense à Rick Genest, qui vous connaissez peut-être l'homme zombie boy là, qui est complètement couvert de, en fait, d'un corps mort en fait, hein, le cerveau, le crâne, etc. Mais il se passe que en allant vers la transgression, en allant très loin dans la transgression, tout d'un coup, ils deviennent des icônes à leur tour. Bon, mais ça, c'est autre chose, c'est un autre phénomène. Bon. Et puis là aussi, il y a tout le courant queer, lesbienne, qui utilise et qui continue à travailler sur la question non seulement de l'expression artistique, mais aussi de l'expression politique. Alors par exemple, là, c'est King's Queer avec Amour et Révolte, qui est le sort de slogan qui revient régulièrement, etc. Et qui mobilise là aussi, dans une relation très artistique au public, qui mobilise un discours de revendication de l'égalité des droits, de la reconnaissance des différences et des orientations sexuelles. Et puis là, j'ai fait un petit jeu de mots qui est pourri, mais c'était lui qui m'a fait penser hier. C'était sur les trans musicales, parce qu'il y aura donc à Rennes, il va y avoir une journée d'études qui va se faire à Rennes sur la scène punk à Rennes. Mais les trans musicales, moi, à chaque fois, ça me fait penser à autre chose quand on parle de trans musicales. Et du coup, il n'y en a pas qu'à Rennes. Et justement, je trouve que. Alors ça apparaît peut-être, la forêt, je ne peux pas le fixer précisément en date, mais ça apparaît en tout cas dans les années 2000, c'est clair que ça commence vraiment à se mettre en place. Il y a toute une revendication queer à partir du corps punk, ou une revendication punk à partir du corps queer, il faut voir comment ça se construit. Et puis il y a quelque chose, alors là aussi c'est des axes, hein, je vois pas un équilibre dans les deux sens, mais... En tout cas, on en a parlé hier ou ce matin. Par exemple, Genesis of Porridge, qui interroge le genre. On ne sait pas trop comment le classer. Est-ce qu'il est dans une démarche politique ? Là, par exemple, c'est quand il est avec son épouse dans ce projet complètement fou de devenir les mêmes, de subir un certain nombre d'opérations chirurgicales pour être identiques l'un et l'autre. Mais en même temps, à la mort de son épouse, il a continué à travailler, il a continué à se transformer. Photo de Richard Belliat, encore une fois. Donc, alors, c'est qui, c'est quoi, en fait, hein, vous voyez, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il est opéré, ouais, c'est la question qui se pose tout de suite. Est-ce que c'est un vrai homme, une vraie femme qui est ou un vrai homme qui est devenu une vraie femme, c'est hyper intéressant, du coup. Et puis, en fait, ouais, il dit fuck off, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, je m'en fous. Et du coup, après la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qu'on buvait un café là-haut, une bière plutôt, on a parlé un peu de Genesis avec deux, trois personnes qui étaient là et qui ont un peu honte maintenant. Et du coup, les deux photos qui viennent, je les ai rajoutées suite à cette discussion parce que ça interroge effectivement. Et le punk est là aussi pour ça aussi. C'est qu'est-ce qu'il veut faire à la rigueur, c'est son problème. On n'a pas, sauf qu'on va chercher à le catégoriser. C'est un homme ou une femme, c'est une transgenre, transidentité. Voilà. Question de la désignation. Et du coup, je me suis dit, je fais une parenthèse. J'avais pas prévu. C'est la parenthèse Buck Angel. Vous connaissez Buck Angel? Les gens qui regardent de la pornographie. Non, personne. Ouais, d'accord. Non, parce qu'il y a une production pornographique très importante. Alors justement, Buck Angel, je me suis juste dit, je vais mettre la parenthèse Buck Angel par rapport à cette question. C'est quoi ? C'est qui ? Bah oui, Buck Angel, c'est quoi? C'est un homme ou c'est une femme? Bah, c'est un homme et une femme. Ou c'est... Ah, ça dépend, qu'est-ce qu'on prend pour désigner? On prend la dimension génitale, on prend la dimension de genre, d'apparence, de vie quotidienne, de vie en homme, etc. Donc voilà, la question, elle se pose aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, si on est dans une revendication, on n'est pas obligé de reproduire la binarité, le passage d'une catégorie à l'autre. Et du coup, les combats punk, queer, militants, ils vont chercher à infléchir la réalité corporelle à différents niveaux. Là, j'ai pris une petite image avec Béatrice Preciado à l'époque où c'était Béatrice, puisqu'elle devrait s'appeler Paul bientôt, officiellement. Et puis, Judith Butler. Bon, ça, c'était juste... Ça, j'ai pris ça à Bourges, à Emeutrop, justement, où il y a tout cet environnement queer, militant, etc. Et le do-it-yourself, et j'avais trouvé ça très drôle, que le do-it-yourself, c'est pas seulement... Voilà, c'est pas seulement... Ça se fait partout. Et donc, il y a autour de cette idée, il y a des tendances. Alors, j'y travaille un petit peu, je pense qu'il faudrait creuser, avec des personnages comme ça, qui ont traversé l'histoire du punk, pas forcément sur la scène musicale, mais qui sont là, qui étaient là il y a 30 ans, qui sont encore là, et qui travaillent à ces transformations. Par exemple, là, on a Laszlo Perlman, qui est à Londres, qui travaille beaucoup aujourd'hui avec Emeutrop à Bourges autour de ces questions de transformation, de ces questions de transgenre, ces questions de queer et de transformation. À Bourges, donc, vous avez Eric qui est maintenant le responsable de la friche, et du groupe Emeutrop, qui a organisé depuis plusieurs années des ateliers de King, de Drag King. Et là aussi, c'est hyper intéressant, ce travail sur la construction d'une affirmation masculine avec des personnages qu'on va chercher à construire, à inventer. Et là, il y a ce soubassement punk derrière. Alors, je m'interroge en même temps, un soubassement punk, c'est pas que la musique, mais c'est vraiment un état d'esprit, il me semble, qui renvoie à cette façon d'aller là où on a envie d'aller sans se poser de questions. On y va, on emmerde tout le monde, et puis on voit bien ce que ça donne. Et vous voyez, ça a quand même des implications fortes, hein, parce que ça t'engage là, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que les gens, quand ils rentrent chez eux, ils se changent? Ben là, tu changes ton corps et tu te changes toi, et tu te changes hormonalement, et tu te changes à tous les niveaux, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment profond comme engagement. Le ginépunk, il est tout ce courant là aussi très contemporain qu'on trouve plutôt autour de Barcelone en Espagne, avec par exemple des kits gynécologiques qui sont fabriqués pour que les femmes n'aient plus besoin de se soumettre à l'ordre patriarcal que véhiculent les gynécologues. C'est pas moi qui le dis, hein, je reprends le propos. Hein. Mais donc il y a cette façon là aussi de produire, de quoi faire ses propres examens, de faire ses propres frottis, etc., pour être dans l'autonomie complète par rapport à son propre corps. Donc il y a des choses là, et pour le coup, on est vraiment sur un combat politique. Alors ça peut aussi se combiner avec les mouvements trans-pédéguine, etc. Mais c'est pas une émergence, mais il y a une résurgence comme ça d'une revendication de s'approprier son corps. Alors c'est très marginal, en tout cas c'est peu médiatisé, on n'en parle pas. Et c'est vraiment dans l'underground, et on est vraiment dans des réseaux, et peut-être que ce serait intéressant de restructurer la façon dont le punk queer se construit en réseau, comme les groupes punk sont constitués en réseau il y a 40 ans, avec les fanzines, les disquets, etc. Là, on passe par d'autres lieux, d'autres systèmes de... Bon, il y a Internet aussi, mais physiquement, je parle de l'engagement des personnes dans des réseaux physiques. Il y a à interroger cette question-là. Et puis, alors, j'avais mis pour conclure, mais je ne vais pas conclure par ça, parce qu'en fait, non, je n'ai pas basculé. Ça, c'était pour les combo hackers, j'en avais déjà parlé, mais voilà, je voulais parler aussi de la mutation, de l'évolution. Là, je prends quelqu'un qui a été parmi les personnes qui sont allées très loin sur les modifications du corps, qui était vraiment sur la scène punk aux États-Unis, vous voyez, avec des implants, avec des choses très, des oreilles très distendues, des stretchings dans le nez. À l'époque, c'était un de ceux qui avait les stretchs les plus larges, le tatouage facial, le tatouage des yeux, etc. Et puis, donc, vous voyez, donc c'est quand même lourd comme marquage de la face. Le jeu sur l'affirmation masculine, la barbe, etc. Et puis une mutation vers un corps punk de femme, un corps féminin. C'est quelqu'un qui est en transition, qui est pas opéré, qui est dans une démarche, voilà, mais qui est dans une démarche d'affirmation féminine, tout en ayant été très masculin dans la provocation, sur les limites de ce qu'on peut produire sur son corps. Donc là, je voulais juste mentionner aussi que l'histoire des individus est à faire pour saisir l'évolution. On n'est pas punk, alors, punk un jour, punk toujours, ça se discutera. Hein. Mais il y a aussi des transformations du sens qu'on va mettre dans l'apparence. On peut peut-être avoir besoin de mettre beaucoup de choses dans l'apparence quand on a 18, 20, 25 ans, et puis après on a moins besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on change son rapport au monde et son rapport au corps. Et là, la conclusion que je voulais apporter du coup, c'était après Farah, la conclusion c'est aussi interroger tout ce qui se joue dans la culture punk, tout ce que la culture punk a amené sur le rapport à la sexualité. Alors tu parlais tout à l'heure de la représentation de la sexualité, etc. ce matin, mais je pense notamment tout ce qui est... alors, en France, c'est Virginie Despentes qui a fait un bouquin qui s'appelle Mutante, enfin un documentaire plutôt qui s'appelle Mutante, sur tout ce qu'on appelle le féminisme porn-punk ou porno-punk ou post-porn-punk, etc. ou post-porn-féminisme. Alors vous avez vu là, j'ai bien aimé le piercing sur le sein, parce que ça c'est une évolution aussi, hein, c'est le fait de tout d'un coup intégrer ces pratiques de piercing, etc. dans l'affirmation d'une sorte de liberté finalement. Et puis, alors pourquoi j'en parle ? Parce que ça interroge là aussi la sexualité, la pornographie, voire la prostitution, et il y a aussi des combats qui sont des combats pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et là, par exemple, je mets une photo qui a été prise il y a trois ans, à côté, hors circuit, là, vers République, où on a Lydia Lunch, Coralie Trinti, Virginie Despentes. Et là, on a quelque chose qui se joue aussi en termes de transmission, en termes de culture punk féministe. Et ce n'est pas forcément des choses qui vont s'afficher, mais les gens sont là. Et quand Lydia Lunch fait un texte ou une performance, quand Virginie Despentes écrit un roman, il y a cette culture qui se transmet, qui interroge aussi nos propres représentations par exemple, Coralie Trinti, elle co-réalise Baise-moi avec Virginie Despentes. Le film Baise-moi, donc, qui vient du roman de Virginie Despentes, il est co-réalisé par Coralie Trinti, qui est une ancienne actrice porno, tout comme Ovidie. Et là aussi, il y a des choses qui m'interrogent sur cette capacité à s'engager dans une liberté et en se revendiquant féministe, quitte à être en décalage avec les combats féministes les plus orthodoxes, notamment le rapport à la prostitution et à la pornographie. Et puis, alors là, c'est juste la filiation, finalement, une jeune performeuse, Aggie Dirtystein, qui est performeuse, et je terminerai par là, pour ce passage sur le corps, le punk, la revendication liée au genre, etc. Aggie qui fait, alors là, c'est une performance dans laquelle elle lit des passages de King Kong Theory de Virginie Despentes, mais c'est quelqu'un qui a quand même aussi validé une thèse à l'université. Une thèse, oui. Elle a fait une thèse en littérature, il me semble, sur la question de l'engagement féministe par le corps à partir du travail de Virginie Despentes. Et donc ce travail, elle l'incarne également lors de ses performances. Voilà quelques pistes sur lesquelles on pourrait s'engager. Je vous remercie.